Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1-877-827-2346.
Politique internationale avec Loïc Tassé. Monsieur Tassé, bonjour.
Monsieur Dutrisac, bonjour.
Bon, alors, les nouvelles, il y a Monsieur Biden là, qui est parti en vacances.
Oui, je t'emmène en Europe, c'est là qu'on va. Lui, il y passe presque une semaine, et je suis pas sûr que ce soit des vacances qui soient très très reposantes pour lui, parce qu'il enfile les réunions les unes derrière les autres. Ce week-end, il était au G7. Il a aussi vu la reine, mais ça, on passe là-dessus. Je pense que la vieille dame lui a offert le thé. Ça, c'est pas trop fatigant.
As-tu vu, il disait qu'il la comparait à sa propre mère.
Oui, c'est très aimable. on sait qu'il est très susceptible en plus. Elle déteste qu'on fasse référence à son âge. Alors, c'est pas tout à fait brillant de sa part. Je comprends que ça partait d'un bon sentiment, mais
oui.
Tu fais pas ça. Surtout que sa mère, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus vieille qu'Elisabeth.
Il a 78 ans.
Ben oui, c'est ça. Donc, c'était plutôt maladroit de sa part. Mais bon, il y a quand même eu un G7 qui a bien fonctionné entre tout le monde, parce que Trump n'était pas là, faut le dire. Tout le monde s'en est félicité d'ailleurs. L'harmonie régnait, on ne sait pas pourquoi. Hein. Et donc, il y a eu un certain nombre de décisions intéressantes qui ont été discutées là. Faut dire que le G20, on décide de rien véritablement, hein, au G7, ce qu'on fait, c'est on dit ben voilà où on s'en va, voilà ce qu'on a fait comme travail, voilà où on pense arriver, on dresse un petit peu le plan pour ce qui va arriver dans l'année qui vient. Alors, il y a une réaffirmation de la taxe de 15% pour les multinationales qui est là, et ça c'est quelque chose sur lequel les pays vont travailler. C'est une très très bonne nouvelle, parce que comme je te le disais la semaine dernière, ça veut dire que toi et moi, on va payer pas mal moins d'impôts. Si les multinationales paient des impôts, ça va baisser les impôts de tout le monde, et ça c'est une bonne chose, et l'État va pouvoir réinvestir. Évidemment, ils ont parlé beaucoup de vaccins, ils ont parlé beaucoup de la distribution des vaccins, de la pandémie, et il faut comprendre, ils sont autour de la table une dizaine, en traduction simultanée, 6 heures par jour, 2 jours, 12 heures de discussion. T'as pas le temps, hein, en fait, de parler de tant de sujets que ça. Donc, oui, ils ont parlé de l'état de la santé dans le monde. Oui, ils ont parlé des vaccins, de la distribution des vaccins. Ils ont constaté, comme tout le monde, qu'il y avait eu des problèmes de distribution du vaccin et de fourniture médicale. Ils ont dit, bon, ben, je t'en ai parlé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arranger pour qu'il y ait davantage de chaînes d'approvisionnement un peu partout, qu'on ne dépende pas que de la Chine ou de l'Inde. Ça ne marche pas au niveau mondial. C'est des choses qu'on pensait, qu'on savait, etc. Mais ce dont ils ont parlé, et qui n'est pas vraiment dans le communiqué final, qui est très très long, on parle de toutes sortes de choses là-dedans, c'est la Chine. Sur la Chine, il y a à peine 2-3 petits paragraphes de rien du tout.
Ouais.
Mais les discussions ont beaucoup porté sur la Chine. Ça, on le sait, ils l'ont dit, on a eu des discussions approfondies sur la Chine. Donc ça veut dire qu'une grande partie des discussions a été dédiée à la Chine. Et ce qui est arrivé, c'est que les Européens, en fait, sont très conscients, comme les Américains, du problème que pose la Chine aux démocraties, de la rivalité de chinoise en termes de compétition économique. La Chine, en parité de pouvoir d'achat, c'est la plus grande économie au monde, et ils ont peur. Le G7 a peur de perdre sa prééminence économique. Très bien, mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ça? Alors, il y a une bonne idée qui est sortie, c'est de faire une sorte de route de la soie américaine, si tu me passes l'expression, parce que les Chinois ont décidé, il y a quelques années, de faire des nouvelles routes de la soie, d'investir massivement dans les pays en voie de développement pour construire des gares, des aéroports, des ports, des lignes, toutes sortes de choses, et d'investir dans les mines aussi, et évidemment pour faire fonctionner les entreprises chinoises en grande partie, et aussi pour connecter l'économie chinoise à tous ces pays en voie de développement. Donc, les groupes, les pays du G7 ont dit, ben, il faudrait peut-être qu'on ait un projet, nous aussi, qu'on ait quelque chose à offrir aux pays en voie de développement, parce que c'est immense. Les nouvelles routes de la soie, c'est plus d'une dizaine de fois l'équivalent du plan Marshall. Alors, ils ont dit, bon, ben, nous, on va faire quelque chose, on va faire un nouveau projet, que moi, j'appelle donc les routes de la soie américaines. Ils n'ont pas encore mis d'argent comme tel dedans, mais on voit que c'est un projet rival du projet de la Chine. Et ils ont dit, nous, on veut que ce soit transparent, on veut que ce soit fait avec des règles claires, etc. Bonne chance, parce que justement, là où les Chinois arrivent à avoir un avantage sur les Américains, c'est que c'est pas transparent, c'est que c'est un processus qui est souvent très corrompu. Et c'est ça qui leur fait avoir des contrats. Mais bon, je trouve que c'est une bonne action à l'égard de la Chine. Mais pour le reste, très tempéré à l'égard de la Chine, parce que il y a un problème que les pays européens se posent. C'est qu'ils disent, oui, c'est merveilleux, Biden. Oui, il a dit Macron, il a déclaré ça ce week-end, les États-Unis sont de retour. Mais la question, c'est pour combien de temps? Parce que, en 2022, l'année prochaine, c'est possible que les Républicains gagnent la majorité à la Chambre des représentants, puis au Congrès. Ça va bloquer complètement, ça, les démocrates. Puis s'ils gagnent la majorité, c'est très probable que le prochain président des États-Unis soit trumpiste, si c'est pas Trump lui-même. Et ça, c'est une catastrophe pour les États-Unis et pour le monde entier.
Arrête donc, catastrophe.
T'es
un oiseau de malheur, arrête donc.
Donald
Trump est là pour sauver la planète.
Oui, c'est ça.
On lui a pas laissé assez de temps pour faire son œuvre.
Ah non, ça, il va la faire son œuvre.
Ouais, il va
revient,
sauver la planète. Bon, parle-moi d'autre chose, parle-moi d'Israël.
Je me suis trompé sur Israël.
Bon,
tu vois. Je t'avais dit, c'est pas impossible, mais c'est improbable. Ben, l'improbable s'est produit. Monsieur Netanyahou a été défait hier de justesse à 59 voix contre 60. Ce n'est plus lui qui est premier ministre. Il est devenu chef de l'opposition. Alors, il en a profité, Netanyahou, pour lancer un dernier message politique contre Biden et sa politique en Iran, qu'il n'aime pas du tout. Mais ça te montre que la haine contre Netanyahou est immense. C'est plus grand, cette haine contre Netanyahou, que la haine entre les Juifs et les Palestiniens. C'est pas rien, ça, comme haine à l'égard de Netanyahou. Donc, on s'attend en Israël à ce qu'il y ait un gouvernement minimaliste, c'est-à-dire qu'on règle des questions de santé, de pandémie, de relance économique, oui, d'accord. Ça signifie que dans le prochain budget, ben, il va y en avoir pour tout le monde, fort probablement, parce qu'on ne voudra pas faire éclater la coalition. Mais dès qu'il va y avoir un problème vraiment réel, une crise réelle, ben, la coalition risque d'éclater. Si le budget passe, normalement, il devrait passer, mais même là, ça va être une étape importante. Et Netanyahou va travailler très très fort pour faire tomber ce gouvernement s'il reste chef de l'opposition, parce qu'il y a 3 poursuites sur le dos qui vont aboutir, et ça se pourrait qu'il se retrouve en prison assez rapidement aussi.
On va suivre ça. En Algérie, Loïc?
Il y a eu des élections anticipées pour aller élire 405 députés pour 5 ans. Les résultats ne sont pas encore entrés, mais le taux de participation est extrêmement faible, 30%. C'est le plus bas taux de participation qu'on a vu depuis des décennies en Algérie. Pourquoi? Même parce que la population trouve que ces élections sont arrangées, parce qu'effectivement, les gens qui ont pu se présenter sont pas des gens qui représentaient le grand mouvement du Irak, tu sais, dans la rue, etc. Donc, les gens n'étaient pas intéressés. Ils se sont dit, tout ce que ça va faire, ces élections-là, c'est que ça va reconduire les gens qui sont au pouvoir, ça va reconduire cette classe politique qui est appuyée par les militaires. Erreur. Il y a peu de gens qui ont été votés, mais il y a beaucoup d'islamistes qui ont été votés. Et les islamistes disent, c'est nous qui avons gagné les élections. Surprise!
Oh.
Ah oui, ils disent, oui, nous on est des islamistes modérés, mon ami. Ouais, les islamistes modérés, ouais. Parle-moi de ça.
Ouais.
Je te rappelle qu'en 92, les islamistes, entre guillemets, durs, avaient remporté le pouvoir, et les élections avaient été annulées par les militaires, ça avait donné lieu à une guerre civile épouvantable en Algérie, et donc on regarde ça, puis on se dit, oh non, on n'est pas encore en train de jouer dans ce film-là, on a déjà vu ça. Ce qui pourrait arriver, c'est que si effectivement les islamistes gagnent ces élections-là, que le président les nomme à des postes, des comme ministres dans des postes qui sont très très subalternes, et que ils conservent les pouvoirs importants, les portefeuilles de l'économie, de la défense, du ministère de l'intérieur, etc. Mais disons que ça sent un peu mauvais.
Ok. Et avant qu'on se quitte, Loïc, la mort d'un homme qui avait des méchants parties de famille.
Monsieur Ziona Chara, et qui est l'homme qui avait probablement la famille la plus nombreuse au monde. On parle de 89 enfants et de 36 petits-enfants. Évidemment, il y avait un secret, il y avait 38 épouses.
Ah bon, okay.
Oui, ça aide un peu. Mais le nombre n'est pas certain. Il y a des sources qui disent qu'en fait, il y avait 39 épouses, 94 enfants, 33 petits-enfants, un arrière-petit-enfant, ce qui fera en tout cas un total d'une belle grande famille de 167 personnes. Mmh. Il vivait dans une immense maison avec 100 chambres. Sa maison est devenue une attraction touristique que les gens allaient visiter parce que c'est la plus grande famille au monde. On sait que ces femmes vivaient dans un immense dortoir qui était attenant à sa chambre. C'est quand même pratique, mais elle avait un dortoir et lui avait une chambre. Et évidemment, il faisait partie d'une secte chrétienne de 2000 membres, une secte qui avait été fondée par son grand-père. Et le pauvre homme, il n'est pas mort d'épuisement, mais il souffrait d'hypertension et il souffrait aussi de diabète, voilà. Bon. Et donc, c'est ça qui l'a tué, finalement, semble-t-il.
L'hypertension, 36 enfants, c'est trop d'enfants.
Ben, ça
craint. Ça fait craquer l'attention, c'est pas.
Il me semble que oui, ça peut être une cause.
On se laisse là-dessus, Loïc Tassier. Merci. À demain.
Salut. À demain.